Good Morning Business, le grand débrief.
Le grand débrief avec nos trois invités en plateau. Wilfried Galland, directeur de la stratégie chez Montpensier Finance. Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Et Benaouda Abdedaïm. On va commencer avec vous, Benaouda. On va parler de la Grande-Bretagne. Cet après-midi, clôture des candidatures pour le poste de Premier ministre. Il n'y a plus qu'un seul candidat, finalement, c'est Rishi Sunak. Donc, j'ai envie de dire, la messe est dite. On devrait connaître dans la journée le nom du Premier ministre.
A priori, oui. A priori,
hein. Parce qu'il y a toujours, des surprises de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, Rishi Sunak compte plus de 150 partisans. Lorsqu'on sait que le seuil était à 100, on peut se dire qu'effectivement, il a emporté. On voit que Boris Johnson, qui était un temps tenté par la course, se retire, mais... Déjà, il explique que ça sera une parenthèse parce que il a déclaré qu'il serait bien placé, lui, Boris Johnson, pour remporter une victoire conservatrice aux élections générales de 2024, en faisant allusion, bien entendu, à la possibilité d'un retour pour les prochaines élections. Et l'une de ses proches, qui a été ministre de la Culture dans son gouvernement, va même plus loin. Elle dit que il est impossible de gouverner dans les conditions actuelles pour Rishi Sunak et qu'il va falloir en passer par des élections générales, ce qui correspond exactement à ce que réclame le parti travailliste, l'opposition travailliste, qui dit qu'il faut en passer par des élections générales. Donc on pense que Rishi Sunak va avoir quelques journées, quelques semaines, voire quelques mois très difficiles devant lui pour ne serait-ce que rétablir l'ordre et une ligne directrice au sein de son propre parti.
Mais est-ce qu'il plaît au marché? On a vu à quel point c'était important ces dernières semaines de plaire au marché. C'est plutôt un profil centriste. C'est quoi son image, Wilfried Galland?
Oui, effectivement, dans tous les candidats disponibles, Rishi Sunak, c'est celui qui est le plus capable de redonner une certaine crédibilité financière au minimum à court terme au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est la triple instabilité. Hein, c'est l'instabilité politique qu'a admirablement décrit Benaouda. C'est l'instabilité financière avec cette nécessité de se financer en permanence sur un modèle qui est en déficit court. Courant très très fort, un des plus forts déficits courants de la planète. Et puis, globalement, c'est l'instabilité économique parce que, justement, c'est un modèle économique qui s'est fondé beaucoup sur de l'importation, de l'exportation de services et de services financiers qui, aujourd'hui, est totalement déstabilisé par le Brexit. Donc, cette triple instabilité, il va falloir la régler. Et Rishi Sunak a effectivement un atout, c'est que, économiquement, c'est celui qui a été le plus crédible dans les différents débats et dans les différentes propositions pour essayer d'avoir un équilibre entre la position traditionnelle du Parti conservateur qui est une position libérale de diminution des impôts et la réputation de sérieux qu'avait ce parti dans la gestion qui a été, il faut le dire, un tout petit peu mise à mal par la gestion de Boris Johnson. Et donc c'est un bon point d'équilibre. La question c'est est-ce qu'au-delà d'être ce point d'équilibre, est-ce qu'il pourra être un point de relance du Royaume-Uni? C'est tout le pari de Boris Johnson qui est en fait de dire que l'équilibre pourra se faire mais pas la relance et que lui il est là pour la relance. On verra un peu dans les prochains mois ce qui va en être.
Éric Delannoy, ça paraît compliqué à court terme.
C'est compliqué parce qu'on est quand on parle d'instabilité politique, on est à un moment assez unique dans l'histoire politique du Royaume-Uni qui est qu'on va avoir trois premiers ministres en très peu de temps et qu'aujourd'hui, celui qui a été élu il y a quelques années, Boris Johnson, qui avait été élu sur le Brexit, sur la relance, etc., n'est pas du tout le même qui doit mettre en place la politique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut se poser quand même la question de savoir si avec cette nouvelle nomination, il y a eu un mandat démocratique pour que Rishi Sunak puisse faire mettre en place quoi que ce soit qui ne soit pas validé aujourd'hui par les électeurs. D'où le fait que je pense que les travaillistes vont pilonner sur la non-légitimité démocratique de ce nouveau Premier ministre et que s'il va être très compliqué de ne pas envisager des élections générales par rapport à une situation qui devient assez intenable. Quand on parle de crédibilité, il a une crédibilité personnelle. Le problème, c'est qu'il fait partie d'un parti qui n'a plus de crédibilité globale et institutionnelle.
Il y a des règles, hein, Benaouda, sur les élections. Ça ne peut pas venir tout de suite.
Non. Le fait est que si les conservateurs veulent se maintenir, ils se maintiendront.
Exactement. Okay. Bien sûr. La stabilité institutionnelle est très forte.
Exactement. Oui. Et puis il y a aussi un effet, de comparaison qui est à souligner. Mais lorsqu'on reprend ce que j'ai fait tout à l'heure, les déclarations différentes et variées de Rishi Sunak concernant le Brexit, il est exactement en ligne avec la ligne dure du parti. Oui. En avril 2019, il était prêt à la Chambre des communes, a signé a voté pour un départ de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, pardon, de l'Union européenne, sans accord de retrait. Il estime que le Brexit est une opportunité historique d'agilité, de liberté contre le dirigisme européen. Donc il est exactement dans la ligne du parti pour ce qui concerne le Brexit. Mais effectivement, c'est 2019, c'était il y a un siècle. Donc on peut penser qu'il a changé d'avis, mais il est en train de jouer, il a réussi de ce point de vue-là, à jouer sur cette étiquette centriste pour pouvoir convaincre les marchés, disons au-delà des cercles les plus convertis au Brexit, qu'il peut prendre la barre maintenant. Avec quelle légitimité ? Là va aussi se poser la question.
Dans l'actualité également, la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a façonné un espèce de politburo exclusivement composé de loyalistes. Qui veut commencer sur le bilan de ce 20e congrès ?
Je pense que le bilan de ce 20e congrès, il est très clair. Hein. C'est la victoire de la ligne Xi sur tous les plans. C'est-à-dire que ceux qui sont proches de son cercle sont désormais au pouvoir, ceux qui ne sont pas proches de son cercle. Et donc, même toute question idéologique mise à part sont totalement écartées. Donc on a une personnalisation de plus en plus forte du pouvoir chinois. On a, de ce point de vue-là, un centralisme qui est de plus en plus fort dans les discours. Hein. Quand on écoute le discours de Xi Jinping, à la fois son discours de clôture et son discours d'introduction, on a la place du Parti communiste est extraordinairement forte. Je rappelle que le premier des 14 principes de Xi Jinping qui sont maintenant inscrits dans la Constitution, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. C'est le premier. Voilà. Donc, et clairement, il le redit. Il met l'économie, ce qui est intéressant, au centre également de son discours, mais dans une optique très de souveraineté, d'indépendance vis-à-vis du reste du monde et de planification généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, il dit oui, le marché est là pour allouer de façon optimale les ressources. Néanmoins, dès lors qu'on commence à rentrer dans le détail, si je dois définir quelles sont mes priorités en termes d'industrie et en termes de type de formation à privilégier pour les jeunes, eh ben ce sera la technologie, la souveraineté. Donc c'est moi qui vais décider. On est véritablement dans une logique très centralisée, très classiquement finalement communiste du pouvoir chinois. Donc c'est pour ça que ça inquiète un peu les marchés et que ce matin, les marchés chinois ont quand même réagi d'une façon assez épidermique à ce discours.
Benaouda, je ne sais pas si on peut dire ça exactement, mais est-ce que c'est de plus en plus autocratique, personnifié autour de Xi Jinping ?
Ah oui, c'est clair que la ligne qui a été lancée par Deng Xiaoping, puis par Jiang Zemin, puis Hu Jintao, d'une collégialité du pouvoir avec l'expression de différents courants au sein du comité permanent du bureau politique, est balayée. Ceci étant, la lecture des événements en Chine vaut toujours d'être nuancée. Le prochain Premier ministre, Li Qiang, qui est un loyaliste parmi les loyalistes à Xi Jinping, qui est le secrétaire du parti à Shanghai. Et on commence à le voir dans un certain nombre de textes qui ressortent, partisan de l'esprit d'entrepreneuriat privé. C'est lui qui a fait venir Tesla à Shanghai. C'est lui qui a lancé Alibaba dans le Zhejiang. C'est-à-dire que le monolithisme qui apparaît comme ça visuellement et même effectivement inscrit dans la charte mérite des nuances. Lorsque vous voyez qu'une douzaine de régulateurs de la Banque centrale, de l'autorité des marchés, de l'administration d'échanges sont introduits au sein du comité central pour revigorer la régulation financière, ce qui accroît le poids de la finance au sein du parti et de l'appareil central du parti, ça montre aussi que malgré tout, Xi Jinping prend en compte cette nécessité de tendre la main aux forces entrepreneuriales et financières de son pays.
Éric Delannoy, une image, moi, m'a marqué, qui peut-être illustre bien ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est Hu Jintao, sorti pratiquement manu militari.
Ce qui est une traduction, on va dire, quasiment visuelle de cette reprise en main du parti et cette espèce de non-partage du pouvoir. Donc, on est dans une rupture par rapport à avant. Moi, je pense que ça a cela d'inquiétant pour les marchés, notamment, qu'on peut se poser la question de la crédibilité quand même de la manière dont l'économie va être dirigée jusqu'à présent. On nous annonce des chiffres de croissance qui ne sont pas du tout ceux qui sont reflétés par les marchés aujourd'hui, simplement parce que le parti va mettre tout en œuvre pour faire bonne figure dans un moment d'instabilité extrêmement chronique. Instabilité sur le marché de l'immobilier, instabilité sur la croissance des inégalités qui sont extrêmement importantes en Chine, avec des inégalités très fortes et en fait finalement plusieurs pays dans un pays et qui va être difficilement gérable. Alors la planification a ceci d'intéressant qu'elle permet effectivement de montrer qu'on est sur la volonté d'homogénéiser les sujets, mais il y a un grand sujet à laquelle la Chine ne s'est pas attaquée depuis de nombreuses années, c'est la protection sociale, qui crée des instabilités fondamentales par rapport à des habitants qui n'ont pas la capacité à compter sur leur pays pour pouvoir se protéger de l'avenir. Et d'ailleurs, on voit bien que ça a été un des ressorts de la chute de l'immobilier aujourd'hui.
Wilfried Galland, les chiffres de la croissance qui ont été publiés ce matin, 3,9%. Quel crédit on peut donner à ces chiffres qui ont déjà été publiés avec une semaine de retard?
Crédit chinois. Je pense que les chiffres en fait doivent être interprétés dans leur totalité. Hein. Donc on a eu toute une batterie de chiffres qui est sortie ce matin. Ce que ça montre clairement, c'est que l'objectif du gouvernement chinois est de montrer que la croissance avance. Et donc on le voit par exemple dans l'investissement dans les infrastructures. Ça monte très très fort. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la fameuse économie double flux, qui devait également se reposer sur de la consommation intérieure, dont de la confiance, ça marche pas, puisque les ventes de détail sont sorties nettement en retrait.
2,5%, voilà. Elles étaient en hausse de pratiquement 6% au mois d'août.
Exactement. Et donc on voit que l'économie en fait ne tourne pas très vite. Hein. Je rappelle que les prix à la production en Chine, ce qui nous arrange très bien pour l'inflation dans les pays occidentaux, hein, mais les prix à la production en Chine sur une année n'ont augmenté que de 0,9%, ce qui est historiquement extraordinairement faible. Donc on voit très bien que globalement l'élan économique est beaucoup moins là. Ce qui est inquiétant dans ce qu'on voit en Chine, c'est qu'effectivement on va avoir de moins en moins de personnes au sein de l'entourage de Xi Jinping qui vont être capables de lui dire qu'il se trompe. Et donc on a besoin dans un leadership de cet équilibre-là, et cet équilibre ne se trouvera pas nécessairement dans son entourage. Et donc si jamais il y a des changements de cap à avoir, ça va peut-être être difficile, mais c'est vrai que l'économie reste très importante pour la Chine. Moi j'en tire aussi qu'ils veulent montrer que le pays reste puissant économiquement, ils veulent montrer que l'objectif de dépasser les États-Unis reste un objectif crédible, et pour ça ils ont besoin de chiffres, et ils vont les avoir.
On voit les images, Ben Aouda, de Hu Jintao qui est sorti, Stéphane disait Manu Militari. On ne sait pas bien si c'est avec des menottes.
Personne ne bronche autour de la table.
On ne sait pas bien comment il faut analyser
personne
ça.
Personne ne peut broncher.
Justement, personne ne sait strictement rien. On vit sur une spéculation depuis 48 heures à ce sujet-là. Un point clair, net et précis, c'est qu'il était au journal télévisé de la CCTV, c'est-à-dire la chaîne d'État numéro 1, dans le sujet qui a été diffusé. Il y avait les kremlinologues, maintenant on peut, je ne sais pas comment dire, les pékinologues, les plus avertis disent que s'il avait été écarté manu militari, rayé, purgé, il n'aurait jamais été dans le journal télévisé du soir. Donc de ce point de vue-là, tirer une conclusion sur ces seules images-là, c'est peut-être aller vite en besogne, même si son clan, sa faction, pardon, comme on dit en chinois, a été balayée du comité permanent du bureau politique. Donc, de ce point de vue-là, politiquement, Hu Jintao appartient au passé, mais le fait qu'on s'appuie sur ces images-là pour dire qu'il a été purgé, c'est aller, encore une fois, un peu vite en besogne. Un autre point pour rebondir sur ce que nous disait Wilfried à l'instant, le Financial Times a publié un graphique extrêmement parlant sur la transparence des indicateurs macroéconomiques.
Le nombre d'indicateurs qui ont chuté.
Qui sont passés. Lorsque Xi Jinping est arrivé, on publiait 80 000 indicateurs économiques. Là, on est à 25 000. Donc, effectivement, la transparence dans la lecture des statistiques macroéconomiques chinoises est de plus en plus difficile.
Dernier mot, Eric, avant de passer à l'Italie.
La transparence va en souffrir. Et du coup, enfin, le climat des affaires va en souffrir. Parce qu'aujourd'hui, le climat des affaires, c'est d'abord la confiance. Beaucoup de projets d'investisseurs étrangers se sont arrêtés. En France, il y a des industriels qui se posent la question de poursuivre leurs investissements en Chine. Enfin, on n'est vraiment pas sur demain la capacité à voir que le pays va s'ouvrir de nouveau sur l'extérieur.
Dernier mouvement ces derniers jours en Italie. Mélanie a pris sa place, hein, c'est pas une surprise évidemment, c'est suite aux élections. Ben Aouda nous racontait ce matin à quel point finalement son équipe rassure, oui, il n'y a pas de grande surprise. Rassurer, c'est le mot. Il faut rassurer côté italien, côté Grande-Bretagne.
En fait, je pense que son objectif, c'était véritablement ça. Alors, elle avait déjà fait courir effectivement pas mal de bruit, en tout cas laisser courir les bruits, comme quoi elle avait des relations épistolaires ou téléphoniques avec Mario Draghi. Elle a pris Giancarlo Giorgetti, qui est l'ancien ministre du développement économique, je crois, italien, comme ministre des Finances. Antonio Tajani, ancien président du Parlement européen, qui s'occupe de la diplomatie. Donc ces deux éléments-là sont des éléments de stabilité. Alors évidemment, il y a aussi Matteo Salvini, bon, bien sûr, dans l'équipe, mais je pense que son objectif était de montrer que l'Italie reste crédible. Et donc, je rappelle quand même que l'Italie reçoit tous les semestres 2% de son PIB en fonds européens, mais tout ceci est sujet à des critères, justement, pour l'utilisation de ces fonds. Donc elle doit également montrer patte blanche sur sa crédibilité, parce que c'est l'équilibre global de l'Italie, l'équilibre financier, l'équilibre économique est en jeu. 2% tous les semestres, c'est quand même pas rien. Hein. Donc effectivement, pour elle, c'est très important.
Matteo Salvini fait partie de ce gouvernement, mais il n'a pas hérité de l'intérieur comme il le souhaitait.
Oui, il a les infrastructures... Maintenant, ça fait 24 heures qu'elle est au pouvoir. On voit que la presse établie historique du nord de l'Italie, la Stampa, il Sole, attribue des brevets d'orthodoxie à ce gouvernement dit de centre-droit. C'est en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, ce gouvernement. Il va falloir attendre quand même quelques jours lorsque tout cela va se décanter et que les paroles vont se libérer, parce que d'une manière ou d'une autre, les paroles vont se libérer. Il va y avoir aussi la dichotomie entre cette volonté de se conformer au partenariat atlantique, au partenariat européen, et puis le fond de la campagne. Il faut se souvenir qu'au mois de septembre, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, attaquait ceux qui étaient pour l'immigration de masse illégale comme étant entre les mains, un instrument entre les mains des grands pouvoirs économiques, de George Soros, d'être des esclavagistes.
Et donc on disait, il faut montrer pas de blanche, mais le loup est à de grandes dents.
C'était le mois dernier. Donc maintenant, elle est aux affaires. Donc ça, c'était la période de la campagne. Maintenant, il va y avoir effectivement les premières mesures. Demain, il va y avoir les grandes orientations budgétaires. Il va y avoir les 5 milliards d'euros qui vont être accordés pour le prolongement du crédit d'impôt pour l'énergie. Il va y avoir un ensemble de décisions à prendre pour les retraites, les revalorisations. Et c'est sur ces éléments-là que Bruxelles compte juger.
Éric Delannoy, vous a pas entendu sur l'Italie ?
Non, mais enfin, moi, je veux juger sur pièce. Effectivement, ça fait 24 heures qu'elle est installée. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de constater là quand même les forces de rappel de l'intégration européenne et des marchés, qui consiste à dire on ne fait pas n'importe quoi en Europe. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que parmi tous les tentatives populistes qu'il peut y avoir aujourd'hui, ici et là, ça peut permettre de montrer qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Les mauvaises nouvelles, c'est que compte tenu de ces discours extrêmement durs, qui sont presque aussi durs, voire pires, que ceux qu'avait tenu Matteo Salvini à une époque, on attend les premières décisions et puis on jugera sur pièce. Maintenant, l'économie italienne a besoin de stabilité, c'est clair.
Mais l'avantage, c'est que ça a été vite. Quand même, à noter quand même, c'est que l'avantage, c'est que contrairement à la légende italienne, la stabilité politique, on l'a peut-être un petit peu là-haut.
On aura le temps d'en reparler.